Il est 7h50 à Paris. Votre invité, Frédéric Rivière. Vous recevez ce matin Manuel Bompard, directeur des campagnes de la France Insoumise et candidat aux élections européennes.
Bonjour Emmanuel Bompard.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous inspire la marche des foulards rouges qui a eu lieu hier, ce mouvement qui veut, comme une réponse en quelque sorte aux manifestations des Gilets jaunes et aux violences qui les ont émaillées, affirmer le soutien, la défense de la démocratie?
Je pense que tout le monde veut défendre la démocratie. Ils ont souhaité manifester sur leurs droits. Ceci étant dit, on nous avait annoncé une démonstration de force de la majorité soi-disant silencieuse. Moi, j'ai observé plutôt un échec avec une mobilisation qui a été très faible en nombre. Ce que je retiens surtout, c'est qu'on a eu un onzième week-end de mobilisation. Et la question que je pose, elle est finalement assez simple. Il faudra combien de journées de mobilisation? Il faudra combien de policiers à bout? Il faudra combien de personnes blessées? Il faudra combien de personnes décédées pour qu'enfin le gouvernement en tire des conséquences et apporte des réponses politiques pour le pouvoir d'achat, pour la démocratie,
qui pour l'instant ne sont pas à la hauteur de la situation. On va évoquer ça parce qu'il y a le débat et le débat national et Emmanuel Macron en a parlé hier. Mais puisque vous parlez de la manifestation de samedi, 11e acte, pour reprendre la terminologie à la mode, a été marqué par la blessure grave d'un des leaders du mouvement, Jérôme Rodriguez, touché à un œil, dont on ne sait pas d'ailleurs s'il va le perdre ou non. Une enquête de l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale, a été lancée, mais à la France Insoumise, vous demandez d'ores et déjà démission du ministre de l'Intérieur, Castaner.
Il me semble que dans tout mouvement social, c'est celui qui donne les ordres, et donc c'est le ministre de l'Intérieur qui doit assumer les responsabilités d'erreurs ou d'échecs dans le maintien de l'ordre. Et on peut pas accepter dans une démocratie qu'aujourd'hui participer à une mobilisation pacifique, ça conduise que vous rentrez à la maison avec un œil sur deux. Il y a encore une fois beaucoup de personnes qui ont été blessées dans cette mobilisation. C'est le mouvement social le plus violent depuis plus de 50 ans. Et je pense effectivement que le ministre de l'Intérieur doit en assumer des responsabilités politiques. Je pense aussi que ça pose la question de l'utilisation d'un certain nombre d'armes pour le maintien de l'ordre. Et nous, pour notre part, on considère que les flashballs, un certain type de grenades doivent être interdits. Ils sont utilisés qu'en France, pas dans d'autres pays. Manifestement, les autres pays n'en ont pas besoin pour assurer leur tâche de maintien de l'ordre. Et ils conduisent des séquelles et des dégâts qui sont graves. Donc il faut réfléchir à l'utilisation de ces armes-là dans le cadre du maintien de l'ordre. Je pense qu'on pourrait les interdire. Les députés de la France Insoumise ont déposé une proposition de loi à ce sujet.
Alors, vous exprimiez il y a un instant donc une forme d'impatience à ce que le gouvernement réponde à la crise sociale par des mesures concrètes. Emmanuel Macron, qui est en Égypte, a estimé hier que cette crise était un moment de vérité, qu'il ne s'attendait pas à un quinquennat particulièrement calme. Je prends, a-t-il dit, très au sérieux ce moment que nous vivons. Je ne sais pas aujourd'hui ce qu'il donnera, mais je sais que j'en tirerai des conséquences profondes. Et il dit qu'il fallait donner un cadre aux colères et aux contestations, et que ce cadre, c'est ce grand débat national. C'est ce qui s'exprime dans le mouvement des Gilets jaunes, dans cette crise sociale. Beaucoup sont d'accord pour dire que ça remonte à des années, voire à des décennies. Est-ce que on ne peut pas prendre, avoir la patience d'attendre jusqu'à la fin du débat pour voir si oui ou non la réponse de l'exécutif sera à la hauteur des demandes?
Pour ça, il faudrait que ça soit un vrai débat et pas une mascarade. C'est pas moi qui le dis, c'est y compris la présidente de la Commission nationale du débat public, Chantal Jouanneau, qui dit ce débat est d'ores et déjà biaisé et on en a été écarté parce qu'on voulait garantir les conditions d'un débat qui serait un débat impartial.
Elle n'en a pas été écartée, c'est elle-même qui s'en est retirée.
Alors, je vous invite.
La question de savoir si on l'y a invité ou pas, c'est autre chose. Personne.
Mais
ne
je
le
vous
sait.
Invite à consulter l'enquête, par exemple, de vos confrères de Mediapart sur le sujet, qui indique à quel point, à chaque moment où elle a essayé de mettre des conditions qui permettaient une impartialité du débat, notamment dans l'écriture du rapport final, à chaque fois on lui a dit non, ça c'est le gouvernement qui s'en occupera.
Non, mais le fait est qu'elle s'est retirée du pilotage du grand débat pour la question de son salaire qui provoquait un début de polémique.
Ah, ça a ensuite été la polémique, bien sûr, mais bon, chacun lira cette enquête et puis ça en tirera ses conclusions. Moi, ce que j'observe, c'est que ce débat aujourd'hui, il est biaisé dans les questions qu'il pose. Vous pouvez pas seulement dire aux gens, est-ce que le problème c'est qu'il y a trop de services publics ou qu'il y a trop d'impôts? On peut aussi se poser la question de augmenter la contribution des plus riches de ce pays, par exemple, à l'effort, et par ailleurs que le président de la République n'a jamais dit pour l'instant comment les désaccords politiques qui pourraient s'exprimer dans ce débat seraient tranchés a posteriori. Une majorité des Français aujourd'hui souhaite le rétablissement de l'impôt sur la fortune, le président de la République ne le souhaite pas. À la fin, il faut qu'il y ait un vote pour que ce débat serve à quelque chose. Et pour l'instant, on observe que le président de la République dit parler, mais à la fin, c'est moi qui vais trancher tout seul. Et ça, c'est pas possible de régler le problème de légitimité qu'a aujourd'hui le président de la République par cet outil-là. Je pense qu'il faut permettre le retour aux urnes, et c'est que la dissolution de l'Assemblée nationale qui doit permettre de régler des situations de tension en démocratie.
Un peuple qui se soulève contre un chef de l'État dans lequel il ne se reconnaît plus, dont il ne veut plus de la politique, est-ce que vous pourriez définir ainsi ce qui se passe avec le mouvement des Gilets jaunes ?
Oui, sans doute. En tout cas, c'est un peuple qui demande que sa voix soit enfin entendue. Et que ses difficultés dans la vie de tous les jours soient enfin pris en compte. C'est comme ça que je l'observe. Mais par contre, il y a des modes de légitimité démocratique qu'on manifeste, et les gens disent il faut le retour aux urnes, parce que c'est comme ça qu'en démocratie, on règle ces problèmes de légitimité.
Bon, on reviendra dans un instant à cette question de la légitimité de la contestation contre un chef d'État. D'abord, une question très simple et très concrète. Est-ce que vous confirmez, parce que c'est une information qu'on peut lire, que la France insoumise est confrontée actuellement au refus des banques de lui accorder des crédits pour financer la campagne des européennes?
Non, je le confirme pas. Nous avons engagé des démarches auprès d'un certain nombre d'établissements bancaires et nous attendons des réponses, parce que nous considérons que dans une campagne européenne, c'est légitime qu'un parti comme le nôtre, qu'un mouvement comme le nôtre puisse disposer d'un financement. Ça me paraît être nécessaire à l'exercice de la démocratie.
Et est-ce que vous craignez l'effet d'une liste gilet jaune, puisqu'elle est en train de se constituer, au moins une, puisqu'il pourrait peut-être y en avoir plusieurs, sur vos propres résultats aux élections européennes?
Non, vous savez, moi, je fais pas de la politique avec des intérêts de boutique. Et ce que j'observe,
en même temps,
c'est que
le score est quand même important.
Le score est important, mais ce qui est le plus important, c'est de savoir si les questions que nous voulons porter dans le débat public, pour la justice fiscale, pour la justice sociale, pour la démocratie, soient portées effectivement dans ce débat. Et plus il y a de gens qui veulent porter ces sujets-là, et plus c'est une bonne chose, parce que ça permet de faire avancer ces idées-là. Maintenant, j'observe que cette liste gilets jaunes est extrêmement critiquée, remise en cause, et que je pense que c'est abusif de parler de liste gilets jaunes, mais d'une liste de citoyens qui ont envie de se présenter. C'est leur droit le plus strict, mais je crois pas qu'ils représentent l'ensemble des gilets jaunes ou l'ensemble des Français qui se sont mobilisés dans ce mouvement depuis 2 mois.
Alors, un peuple qui se soulève donc contre un chef de l'État dans lequel il ne se reconnaît plus, dont il ne veut plus de la politique, est-ce que c'est ce qui est en train de se passer également au Venezuela ?
Au Venezuela, manifestement, il y a des contestations de la politique menée par Monsieur Maduro. Elles sont légitimes. On a le droit dans une démocratie d'avoir des contestations. Mais ensuite, il y a des moyens démocratiques, constitutionnels de la régler. Je rappelle que la constitution vénézuélienne prévoit le retour aux urnes et le référendum révocatoire, ce que la France ne dispose pas par ailleurs dans sa constitution. Je pense que c'est une erreur. Et il y a eu une élection l'année dernière sur la base d'un référendum révocatoire et le président en place l'a remporté. Donc je pense que les manifestants aujourd'hui ont le droit de manifester, mais ils doivent rester dans le cadre de la légalité, de la légitimité démocratique. Et qu'en tout cas, c'est pas à des puissances extérieures comme les États-Unis d'Amérique de Monsieur Trump ou le Brésil de Monsieur Bolsonaro, dont on pourra contester aussi la politique, de décréter qui sera le prochain président de la République du Venezuela. Donc il faut être un petit peu sérieux. Je pense que Emmanuel Macron, en s'inscrivant dans la droite ligne de Monsieur Trump ou de Monsieur Bolsonaro, fait une grave erreur. La France doit respecter la légitimité démocratique. C'est pas elle de choisir à distance et contre le peuple vénézuélien qui sont ses représentants.
Le soutien exprimé par Jean-Luc Mélenchon à Nicolas Maduro, le président vénézuélien, est-il sa position personnelle ou est-ce que c'est la position de la France insoumise ?
Mais la France insoumise, elle soutient pas tel ou tel individu, elle soutient une situation politique dans laquelle il est normal que ce soit le peuple vénézuélien qui choisisse ses représentants et pas des puissances extérieures et étrangères. Je pense que c'est normal.
Mais vous êtes sûr qu'aujourd'hui ce sont d'abord les puissances étrangères qui organise la contestation?
Non, mais je pense qu'il y a une contestation, il y a une colère qui existe au Venezuela. Ce serait absurde de la nier, mais je pense effectivement...
La situation économique y est absolument catastrophique.
Elle est difficile.
Elle est catastrophique.
Mais
il y a les mots ont un sens, donc il y a des échelons dans la gravité.
D'accord.
Et catastrophique, c'est plus que difficile, non? Enfin, je sais pas, vous le diriez pas comme ça?
Honnêtement, je ne mesure pas et je n'ai pas envie aujourd'hui d'avoir un débat sur la situation économique du Venezuela, mais je ne suis pas en train de nier qu'il puisse y avoir des gens qui contestent la politique menée par Monsieur Maduro. Mais par contre, il n'est pas normal que des puissances extérieures s'arrogent le droit de reconnaître un président dont vous avez dit vous-même dans votre journal tout à l'heure qu'il était autoproclamé. Vous imaginez bien que si en France, une personne aujourd'hui, un gilet jaune, disait « je suis le nouveau président de la République » et qu'une puissance extérieure le reconnaisse, vous trouverez ça fortement contestable et vous aurez raison.
Merci Emmanuel Bompard.
Merci à vous.
Bonne journée.